Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le dimanche de la Sainte Famille. Les parents de Jésus se rendent chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il a fait ses 12 ans, alors qu'ils sont montés selon la coutume de la fête et ont achevé les journées, pendant qu'ils s'en retournent, l'enfant Jésus reste en arrière à Jérusalem. Ses parents n'en ont pas connaissance. Pensant qu'il est dans la caravane, ils font un jour de marche et le recherchent parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils font demi-tour vers Jérusalem, le cherchant sans cesse. C'est après 3 jours qu'ils le trouvent dans le temple, assis au milieu des maîtres, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'écoutent sont stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ils le voient, ils sont frappés de stupeur. Sa mère lui dit :
« Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, ton père et moi, nous te cherchions, tout tourmentés. »
Et il leur dit :
« Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois chez mon père ?»
Eux ne comprennent pas la parole qu'il leur dit. Il descend avec eux et vient à Nazareth, et il leur est soumis. Et sa mère garde avec soin toutes ses paroles dans son cœur. Jésus progresse en sagesse, en âge et en amour, aux yeux de Dieu et des humains.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. Voici un passage que la liturgie a choisi pour célébrer la fête de la Sainte Famille. Cette fête est récente puisqu'elle a été instituée en 1921. On l'a probablement voulu pour renforcer les convictions dans les valeurs de la famille de sang. Il n'est pas certain que l'Évangile choisi soit très pertinent, car le message qu'il livre est peut-être différent.
Oui. Voyons d'abord, bien sûr, le contexte. Nous sommes dans les 2 premiers chapitres qui forment l'Évangile de l'enfance. Ces chapitres, on le sait, ne font pas partie du corps central des récits évangéliques. Ce corps central qui commence au baptême de Jésus et va jusqu'à la résurrection. Les chapitres de l'enfance ont été écrits plus tard à la lumière de la foi des premiers chrétiens dans Jésus, le Messie ressuscité. Avant donc d'être un récit historique, ce sont une catéchèse. Après les récits de l'Annonciation et de la Naissance, voici celui du séjour de Jésus au Temple. Le lien se fait par les versets 39-40.
Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la Torah du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. Et l'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse. La faveur de Dieu était sur lui.
La scène du temple va donc dire comment Jésus est rempli de cette sagesse du Père.
Les parents de Jésus se rendent chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il a fait ses 12 ans, ils sont montés selon la coutume de la fête.
Alors, comme toute famille juive pratiquante, Marie et Joseph répondent aux préceptes de la Torah de Dieu, tel qu'on le trouve inscrit dans le livre de l'Exode au chapitre 23.
« Tu me fêteras chaque année par 3 pèlerinages. Tu observeras la fête des pains sans levain. Tu observeras la fête de la moisson ainsi que la fête de la récolte. 3 fois par an, tous tes hommes viendront voir la face du Maître, le Seigneur Dieu. »
Et pour ces fêtes, eh bien sur les routes de la Palestine, il se forme de longues caravanes de gens qui montent à Jérusalem et qui se déplacent en groupe afin de se protéger des brigands. À Jérusalem, eh bien là, ce seront des foules très nombreuses qui vont se rassembler sur les parvis du temple et qui encombreront les rues très étroites de la ville. On pouvait donc facilement se perdre de vue dans cette Jérusalem abondamment peuplée de pèlerins. Ces 12 ans accomplis, le jeune juif entre dans la vie adulte. Oh, il ne quitte pas ses parents, mais il n'est plus l'enfant, il est le fils. Chez les Juifs, on est homme adulte à 12-13 ans. Ainsi, une synagogue qui n'est pas d'abord un bâtiment en pierre, mais un lieu de réunion, une assemblée de prière, eh bien, il faut qu'il y ait 10 hommes de 13 ans et plus pour former une synagogue. La synagogue est un lieu au sens humain et au sens social du terme. Le jeune célèbre cette majorité lors d'une cérémonie religieuse que l'on appelle dans la langue juive la bar mitzvah, ça se fait encore de nos jours. Ce mot signifie que le jeune juif devient un fils du précepte, un fils de la règle de Dieu. La cérémonie se déroule normalement à la synagogue. Pour la première fois, le jeune garçon va lire en public. Il va proclamer un passage des prophètes, ces prophètes qui sont justement ceux qui interprètent la Torah, la règle de Dieu, ceux qui montrent comment il faut la mettre en pratique. Maintenant qu'il est adulte, le jeune devient responsable devant Dieu de la manière dont il va vivre selon la règle de vie divine. Son père, Joseph, aura alors, au cours de cette célébration, prononcé solennellement cette prière « Béni soit Dieu qui m'a relevé de la responsabilité de ce garçon ». En effet, pour les Juifs, être père, ce n'est pas d'abord engendrer physiquement, c'est engendrer spirituellement. L'abba de la famille, abba qui signifie papa, est celui qui enseigne à ses enfants toutes les traditions qui sont contenues dans les livres bibliques. Et il le fait en transmettant les préceptes de la Torah pour que les enfants les apprennent par cœur. On n'engendre donc pas seulement des fils à la vie, mais on les engendre comme fils de la règle de Dieu pour qu'ils deviennent justement des fils de Dieu. Devenu majeur à 12 ans, c'est directement auprès de son Abba des cieux, de son Papa des cieux, le Père céleste, que le jeune recevra désormais l'enseignement du Père humain qui lui a enseigné au nom de Dieu. Il passe maintenant au seul vrai enseignant, le seul qui soit vraiment Père Dieu. Jésus d'ailleurs dira plus tard « N'appelez personne d'entre vous sur la terre du nom de Père, car unique est votre Père des cieux. » Eh bien, comme tout bon juif, Jésus sait maintenant cela.
Il le trouve dans le temple, assis au milieu des maîtres, les écoutant et les interrogeant.
Jésus se trouve donc dans le temple. Eh bien, regardons son attitude. Il écoute les maîtres et il les interroge. Il apprend la Torah de la bouche maintenant des rabbis. Pourtant, Luc mentionne que tous ceux qui l'écoutent sont stupéfaits de l'intelligence de ses réponses. Jésus ne se contente donc pas seulement d'écouter. Il répond. À cette époque, on sait que l'enseignement se faisait par questions et réponses. Car la Torah, pour le juif, doit être en permanence questionnée. Elle doit être continuellement objet de discussions et d'échanges, pour que, à travers ces discussions et ces échanges, on découvre comment elle doit être mise en pratique, génération après génération. J'aime bien cette belle image de Claude Rivlin qui illustre ce questionnement en disant « C'est comme une bétonnière qui fait tourner le ciment de manière à ce qu'il ne se pétrifie pas, sans quoi on ne pourrait plus le couler. » Eh bien voilà, la Torah, il faut constamment la faire tourner pour qu'elle ne se pétrifie pas. Dans les Actes, l'apôtre Paul a raconté l'éducation qu'il a reçue de ses maîtres.
« Je suis juif né à Tars en Cilicie, mais c'est ici, dans cette ville, que j'ai été élevé et que j'ai reçu au pied de Gamaliel, une formation stricte à la Torah de nos pères. »
Les élèves, à l'époque, étaient assis par terre, au pied de leur maître. Ils apprenaient et ils répétaient souvent par cœur les enseignements. Ces enseignements qui étaient donnés dans des formules à la fois rythmées et stéréotypées. Il est étrange que Luc dise de Jésus qu'il est assis au milieu des maîtres et non pas à leurs pieds, car c'est être au pied du maître qui est l'attitude habituelle du disciple. Alors pourquoi ? Peut-être y a-t-il ici une référence au livre de Daniel, au chapitre 13. Daniel intervient dans une assemblée pour prendre la défense d'une femme qui s'appelle Suzanne et qui est injustement condamnée. Or, une tradition rapporte que Daniel avait précisément 12 ans. Jésus, comme Daniel, aurait donc été admis à s'asseoir au milieu des maîtres à cause de sa sagesse. Une autre tradition dit que Salomon est monté sur le trône, le roi Salomon, à l'âge de 12 ans, et que c'est alors qu'il a prononcé son fameux jugement, ce jugement qui a fait de Salomon le roi modèle de la sagesse. Son nom, d'ailleurs, signifie sagesse. Enfin, Flavius Joseph, un historien juif qui est contemporain de Luc, écrit que Samuel, le jeune Samuel qui deviendra un juge, Samuel a commencé à prophétiser à 12 ans. Alors, comme Daniel, comme Salomon, comme Samuel, eh bien Jésus est tout ouvert à l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Sa prière et sa droiture de vie le mettent en communion avec Dieu et donc on peut lui appliquer la description du sage, cette description qui est faite par le psaume 118. « Plus que tous mes maîtres, j'ai la finesse, ton témoignage, je le médite. Plus que les anciens, j'ai l'intelligence, tes préceptes, je les garde. »
Ils le voient, ils sont frappés de stupeur. Sa mère lui dit, « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, ton père et moi, nous te cherchions tout tourmentés. »
Les maîtres de la Torah admirent l'intelligence de Jésus, tandis que ses parents, eux, expriment leur inquiétude. C'est que les parents ne sont peut-être pas sur la même longueur d'onde que leur fils. Ils se situent peut-être au plan de leurs liens familiaux, tandis que Jésus, lui, dévoile son lien invisible avec une autre famille, celle du Père, qui est Dieu. Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ? Comment comprendre cette réponse dont le récit évangélique dit que Marie et Joseph ne saisissent pas le sens ? Eh bien, deux indices peuvent nous apporter une lumière. Le premier indice, c'est l'indication « après trois jours », et le deuxième, c'est la formule « il faut ». Après trois jours. Ces trois jours se comprennent selon la manière juive de compter. Le premier jour de route, le jour du retour et le jour des retrouvailles. Selon notre manière actuelle, nous dirions « après deux jours » ou bien nous dirions « le troisième jour ». Eh bien, ce sera aussi après trois jours que les femmes et les apôtres retrouveront leur maître ressuscité. Le vendredi de la mort, le Shabbat, et le premier jour de la semaine, notre dimanche. Est-ce qu'il ne faut pas voir là un rapprochement voulu par l'évangéliste ? Il faut. Est-ce que l'on ne retrouve pas encore ici l'expression par laquelle Jésus dira sa décision de livrer sa vie à ceux qui le rejettent ?
Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que le troisième jour, il ressuscite. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ?
Lorsque Jésus répond qu'il lui faut être chez son Père, le récit nous dit encore que Marie et Joseph sont frappés de stupeur et qu'ils ne comprennent pas la parole qu'il leur dit. Eh bien, ce « il faut » n'a pas davantage été compris plus tard par les propres disciples de Jésus, témoin la réaction qu'auront les apôtres devant les annonces de la Passion.
Mais ils ne comprenaient pas cette parole. Elle leur restait voilée. Mais eux n'y comprirent rien. Cette parole leur demeurait cachée et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire.
Ce « il faut » qui traduit la communion de Jésus à la sagesse de son Père. Ce « il faut », eh bien, c'est par amour que le Père et lui vont décider que Jésus livrera sa vie à tous ceux qui vont le rejeter. En effet, alors qu'au début de sa vie adulte, tous ceux qui l'écoutent sont stupéfaits de son intelligence et de ses réponses, eh bien, la sagesse de Jésus rencontrera plus tard le rejet. Elle sera un objet d'étonnement de la part des gens de sa petite patrie. D'où lui vient cette sagesse, diront les gens de Nazareth. Et Jésus leur répondra.
Sûrement, vous allez me citer ce dicton. Médecin, guéris-toi toi-même. Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. faisant donc autant ici, dans ta patrie. Oui, je vous le déclare, aucun prophète ne trouve accueil dans sa patrie.
Et Luc va clore l'épisode de Nazareth par un petit tableau qui est peut-être symbolique.
Ils se levèrent, le jetèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle était bâtie leur ville, pour le précipiter en bas.
Oui, cette scène évoque sans doute déjà celle qui conduira Jésus sur la colline du Golgotha, où il sera crucifié hors de la ville de Jérusalem. Eh bien, ce rejet de Jésus par les siens à Nazareth préfigure son rejet par l'élite de son peuple. De la même façon qu'au seuil de sa vie adulte, Jésus est au temple, de nouveau, peu avant son arrestation, ce sera encore au temple que Jésus se retrouvera.
Il était chaque jour enseigné dans le temple. Les grands prêtres et les scribes cherchaient à le faire périr, et aussi les chefs du peuple. Les siens ne l'ont pas accueilli.
Pour accomplir la volonté du Père, qui invite Jésus à faire don de sa propre vie, Jésus devra minimiser les liens du sang, car les siens ne le comprendront pas. Cela peut expliquer les liens difficiles qui seront ceux de Jésus et de sa famille humaine, et les attitudes même qui peuvent parfois nous surprendre. On a rappelé tout à l'heure sa visite à Nazareth, où vit sa parenté. En un autre temps, les membres de sa parenté voudront le ramener au village parce qu'ils pensent qu'il a perdu le sens. Ailleurs, le récit de Jean nous donne cet écho.
Ses frères lui dirent « Passe d'ici en Judée, afin que tes disciples, eux aussi, puissent voir les œuvres que tu fais. On n'agit pas en cachette quand on veut s'affirmer. Puisque tu accomplis de telles œuvres, manifeste-toi au monde. » En effet, ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en lui.
Oui, ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en lui, sa famille ne croyait pas en lui. Et notons encore la réplique qu'il fait à quelqu'un qui fait l'éloge de sa mère.
Une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit « Heureuse celle qui t'a porté et allaité ». Mais lui, il dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent ».
Eh bien, ces textes nous disent qu'au-delà des liens du sang, Jésus proposera les liens d'une nouvelle famille.
Sa mère et ses frères viennent alors le trouver, mais ils ne peuvent l'aborder à cause de la foule. On l'en informe. « Ta mère et tes frères se tiennent dehors et veulent te voir. » Mais il leur répond, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. »
Ceux qui écoutent et mettent en pratique son évangile vont en effet pouvoir devenir comme lui, fils et filles de Dieu, et ils seront ainsi réellement frères et sœurs les uns des autres. Cette relation fraternelle en Dieu, c'est la relation qui est pour Jésus fondamentale et qui doit passer avant tous les liens du sang.
Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple.
Le mot haïr est ici à prendre, bien sûr, dans son sens culturel juif. Il signifie qu'il faut donner priorité à la famille spirituelle, qu'il faut préférer cette famille de Dieu à celle du sang. Pour savoir choisir la sagesse de Dieu, lorsque des conflits vont survenir qui imposeront un choix difficile, eh bien il faut être libre intérieurement. Pour être capable d'écouter la sagesse de Dieu et la mettre en pratique jusqu'au bout, eh bien il ne faut pas être prisonnier des liens du sang. Pour vivre totalement selon l'esprit du Père, c'est-à-dire vivre vraiment selon l'amour, on aura besoin du soutien de la communauté des fils et des filles de Dieu. À ceux qui auront fait ainsi le choix de quitter leur famille de sang, Jésus promet une autre famille spirituelle.
Amen, je vous le dis, nul n'aura laissé maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou champ à cause de moi et à cause de l'Évangile, qui ne reçoive le centuple dès maintenant au temps présent, en maison, frère, sœur, mère, enfant et champ.
On notera d'ailleurs qu'on ne retrouve pas de père, puisqu'il n'y a qu'un seul qui soit vraiment père, l'Éternel. Cette famille nouvelle, ce sera l'assemblée des disciples, la Keïla, le mot qui a été traduit par « église ». Elle sera un lieu laboratoire pour devenir, que nous puissions devenir fils et filles du Père, en nous entraînant à vivre le quotidien selon la sagesse de Dieu. Jésus a puisé cette conception de la famille de Dieu dans une relation exceptionnelle qu'il a avec le Père éternel. Évoquons, si vous voulez bien, comment les récits évangéliques eux-mêmes décrivent ces liens d'intimité unique que Jésus a vécu avec Dieu.
Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père.
Tout m'a été remis par mon Père. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Car ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement.
Je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que j'ai à dire et à déclarer. Ce que je le dis comme le Père me l'a dit.
Cette parole que vous entendez, elle n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé.
J'aime mon Père et j'agis conformément à ce que le Père m'a prescrit.
Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils a dessein de le révéler. Eh bien voilà ce qui est primordial pour atteindre le bonheur. Il faut s'attacher au Père d'un amour passionné pour vivre selon son esprit de bonté. Cette intimité entre le Père et Jésus rejaillira aussi sur la qualité des liens entre Jésus et ses disciples. En effet, la relation de maître à élève fera place à celle de l'amitié.
Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître.
Je vous appelle ami. Les disciples, entre eux, ne devront-ils pas vivre cette même amitié pour que leur fraternité ne soit pas un simple titre, mais qu'elle devienne une réalité?
Elle garde avec soin toutes ces paroles dans son cœur.
C'est à l'heure de la résurrection que la mort de Jésus pourra enfin être comprise. C'est alors que sera vraiment perçue cette sagesse de Dieu qui a conduit Jésus à mourir pour dire l'amour inconditionnel et le pardon.
Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent, puis il leur devint invisible. Ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas en nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures?
Oui, la mort de Jésus ne se comprend dans toute sa vérité qu'en révélant l'infini amour dont le Père aime ses fils et ses filles. Ainsi, le lieu qui sera le plus parlant de l'amour divin, ce sera la croix. C'est la mort de la croix, parce qu'elle sera le signe de cet amour suprême qui révélera enfin quelle est la sagesse de Dieu et où se trouve la vraie vie, l'éternelle vie. Jusque-là, Marie devra garder avec soin tout cela dans son cœur. Dans la pensée biblique, le cœur est le lieu de la mémoire de la vie. C'est là qu'il faut garder, conserver tout ce qui pourra nous faire vivre dans l'avenir en nous donnant le sens des réalités les plus profondes. Origène donnera ce commentaire: Marie savait qu'un temps viendrait où ce qui était caché serait manifesté en lui. Cet épisode de Jésus au Temple est donc plus qu'une anecdote historique. Luc en a fait un tableau nous révélant déjà ce que sera le mystère de cet homme. il sera à la fois l'objet de l'étonnement de certains, mais aussi l'objet du rejet de nombreux autres qui ne comprendront pas ou n'accepteront pas le sens de sa destinée. Cet homme aura mission de révéler par toute sa vie que Dieu n'est qu'amour et que cet amour n'est pas puissance de domination. Sa mort dira que Dieu n'a que l'amour à donner en partage à ceux qui le refusent. Et cet épisode dévoile ainsi de quelle sagesse doivent vivre les disciples de Jésus. Une sagesse faite du respect absolu de l'autre, faite de service et de pardon, qui devra s'attendre à affronter la croix. Oui, les disciples auront toujours à lutter contre toutes les formes de mépris et de domination qui défigurent le visage des créatures de Dieu. Charles Péguy, le poète, n'avait-il pas bien compris le sens de ce récit du temple, tel qu'il en parle dans ce passage extrait du mystère de la charité de Jeanne d'Arc.
Heureusement, il l'avait retrouvé dans le temple au milieu des docteurs, assis au milieu des docteurs. Les docteurs l'écoutaient religieusement. Il enseignait, à 12 ans, il enseignait au milieu des docteurs. Comme Joseph et Marie en avaient été fiers, trop fiers, il aurait dû tout de même se méfier ce jour-là. Il était vraiment trop brillant, il brillait trop. Il rayonnait trop parmi les docteurs, pour les docteurs. Il était trop grand parmi les docteurs, pour les docteurs. Il avait fait trop voir, visiblement, il avait trop laissé voir, il avait trop manifesté qu'il était Dieu. Les docteurs n'aiment pas ça. Il aurait dû se méfier. Ces gens-là ont de la mémoire. C'est même pour cela qu'ils sont docteurs. Il les avait sûrement blessés ce jour-là. Les docteurs ont une bonne mémoire. Les docteurs ont la mémoire longue. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
Le numéro 256-4110. Utilisez aussi Internet. Nous avons un site. Téléphonez-nous, nous vous en donnerons l'adresse exacte. Vous pouvez également vous abonner au feuillet ou aux cassettes pour 3 mois, 6 mois, 1 an.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.